Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, je vous salue dans le nom de notre précieux et divin Sauveur Jésus-Christ. Avec vous, pasteur Serge Alexandre, dans l'émission évangélique La Voix de celui qui crie dans le désert. La Voix de celui qui crie dans le désert, une émission hebdomadaire préparée pour vous avec des vérités bibliques et des recherches théologiques. Nous voulons vous faire découvrir la valeur, la beauté et l'excellence de l'Évangile. Nous vous prions de rester branchés avec vous, Sœur Marceline Alexandre, dans une courte prière.
Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, à toi seul, la gloire et l'honneur. Nous te remercions pour tous les privilèges que tu nous as accordés. Nous te demandons pardon pour nos péchés et nos iniquités. Voici, Seigneur, l'émission, la voix de celui qui crie dans le désert, de bénir le pasteur Serge, ainsi que tous nos auditeurs. Que ton esprit puisse illuminer leur âme et qu'ils soient édifiés. Nous bénissons, glorifions, exaltons ton nom, Seigneur. Nous te prions ainsi, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.
Chers amis, auditeurs et auditrices, nous voici de retour dans notre émission hebdomadaire, La Voix de celui qui crie dans le désert. Nous avons un sujet tout neuf que nous allons commencer avec vous. Notre sujet est intitulé « La foi, sa nature, ses effets et les promesses qui s'y rattachent. Exemple tiré de l'Ancien Testament ». Nous lisons pour vous, avec vous, dans Hébreux 11, versets 1 à 40. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre de Dieu. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui ont fui la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'il avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mais en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les anses de la terre, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. C'est ici que s'arrête notre première lecture pour ce passage. Nous allons continuer avec vous. Nous allons développer notre sujet. Après que nous ayons fait une courte lecture, dans un sujet biblique, nous allons développer avec vous le sujet suivant. La foi, c'est les yeux de l'invisible. La foi, c'est la certification matérielle des choses invisibles. Et encore, nous verrons les 22 piliers de la foi. Quand nous parlons des 22 piliers de la foi, c'est comme un édifice, une maison qui est bâtie sur 22 colonnes. 22 colonnes ou 22, à peu près 22 personnes qui sont des symboles de la foi. Et nous allons traiter chaque colonne, nous allons développer et nous allons aussi donner leur symbole. Donc, après que nous ayons fait une pause musicale, nous vous reviendrons tout de suite.
Tout est noir autour. toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée.
Nous allons lire pour vous un commentaire biblique avant que nous puissions entamer notre sujet. Et nous lisons pour vous, c'est toujours dans le livre d'Hébreux, nous lisons « La foi nous est présentée dans ce chapitre comme la réalisation des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit point. » Par la foi seule, l'âme peut saisir et mettre en pratique les vérités contenues dans cet écrit inspiré. Aussi, l'apôtre ne nous donne-t-il pas ici une définition de la foi? Vue en elle-même, la foi est la réception en toute simplicité et humilité de la parole de Dieu. Elle est un don de la grâce qui nous remplit d'une confiance sans réserve en cette parole, parce que c'est Dieu qui l'a prononcé et qui scelle en la recevant que Dieu est vrai. Elle est, dans un sens moins général, l'acceptation du témoignage que Dieu rend dans les Écritures et à son Fils bien-aimé. Ces définitions se justifient amplement par 1000 passages dans ces mêmes Écritures. Mais dans notre épître, la foi qui a reçu la parole de Dieu nous est montrée dans son activité, dans son fonctionnement. Pour ainsi dire, soit au sujet des choses primordiales qu'elle saisit, soit par ses qualités, comme nous pourrons le constater dans le cours de ce chapitre. Si, comme nous l'avons montré, ce dernier se relie d'une manière générale à tout le contenu de l'épître, il se rattache en particulier au dernier verset du chapitre 10. Dès le début de leur carrière chrétienne, ces Hébreux avaient beaucoup souffert pour l'Évangile, depuis qu'ils eurent été illuminés, c'est-à-dire dans le commencement de leur témoignage. Quatre choses les avaient caractérisées et sont mentionnés par l'apôtre. Ils avaient été dans le combat, un grand combat de souffrance. Ils avaient montré une grande confiance, une joyeuse énergie, quand il était question pour eux de perdre tout pour gagner Christ, sachant qu'il y avait devant eux une grande récompense et que Dieu était leur rémunérateur. Ils avaient été soumis à la volonté de Dieu, mais ils avaient encore besoin de patience pour recevoir les choses promises. Après avoir fait cette volonté, ils n'étaient donc pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient dans la conservation de l'âme. L'apôtre développera ces quatre sujets, la patience, l'énergie, la soumission et le combat de la foi, dans le cours du chapitre. On peut les résumer en deux mots, l'actualité de la foi dans la marche. Après avoir lu ce commentaire biblique, nous allons commencer dans notre développement. Et quand nous disions que la foi, c'est les yeux de l'invisible. La foi, c'est comme une certification matérielle des choses invisibles. Notez bien en hébreu, il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment peut-on être assuré d'une chose qui n'est pas? Et comment on peut démontrer encore une chose qui n'est point encore à la vue? Eh bien, la foi, comme nous disions au commencement, ce sont les yeux de l'invisible. Cela démontre que quand on a la foi, on peut non seulement espérer, mais on peut voir déjà la véracité des choses ou des éléments dont on recherche, que l'on recherche. La foi, c'est comme les yeux de l'invisible. C'est-à-dire que nous pouvons voir des choses qui n'existent pas et les considérer comme certaines. La foi, encore, c'est la manifestation des choses invisibles dans le monde visible. Car comme il est dit en hébreu, c'est par la foi que l'on reconnaît que le monde a été formé par la parole de Dieu et que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Même Dieu, même le Logos, même Dieu, la Trinité, ne pouvait pas former, ne pouvait pas faire la création sans un objet de foi. C'est-à-dire que la foi vient de Dieu, comme on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une perception des choses invisibles. La perception de la foi, c'est voir déjà les choses et les éléments désirés par les yeux de la foi. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On peut démontrer les choses invisibles, même quand elles ne sont pas palpables, même quand on ne peut pas les représenter sous une forme matérielle, mais on peut déjà les représenter par l'esprit, par les yeux de la foi. La foi, encore, ce n'est pas la rationalisation. Cela veut dire que on peut dire que la foi, c'est la confiance en Dieu. C'est se reposer sur Dieu et savoir que Dieu ne peut mentir et savoir que Dieu peut tout faire. Car impossible, c'est là que commence. Impossible, c'est la possibilité de Dieu. L'impossible n'existe pas pour Dieu, devrions-nous dire. Maintenant, nous allons commencer avec les 22 piliers de la foi. 22 piliers de la foi, c'est comme 22 colonnes d'un édifice, 22 colonnes d'une maison. Et chaque colonne représente un symbole. Chaque colonne représente l'un des serviteurs ou l'une des servantes de Dieu qui ont fait des expériences personnelles avec Dieu et qui nous ont laissé des exemples, qui nous ont laissé des témoignages afin que nous puissions nous aussi bâtir notre foi, afin que nous aussi nous puissions placer notre colonne, notre pilier dans cet édifice de la foi, dans cette construction que l'architecte, le grand architecte, le Dieu de l'univers est en train de construire, pour construire notre foi, pour bâtir notre foi, pour fortifier notre foi. Notre fortification dépend de ces éléments, de ces symboles que l'on va voir. Dans cette fondation de la foi, nous allons commencer avec Abel. Nous lisons dans Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Nous allons lire l'histoire d'Abel en Genèse. Dans le livre de la Genèse, Genèse 4, verset 3 au verset 7, nous lisons, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous pouvons voir en Genèse la foi d'Abel, qui, pour la première fois, un jeune homme devait offrir un sacrifice à Dieu, mais par sa foi, il a pu faire un bon choix, il a pu obtenir une bénédiction sans nombre de la part de Dieu. Car par la foi qui est les yeux de l'invisible, comme nous disions, il a pu faire un bon choix. Cette foi a été récompensée. Cette foi a été bénie par Dieu, car son offrande a été acceptée. Et il est dit que malgré qu'Abel est mort, eh bien c'est par la foi encore que son sacrifice parle, quoique mort. Le sacrifice d'Abel représente le sacrifice de l'agneau. Comme en Éden, un agneau a été tué après que nos premiers parents ont péché, le sacrifice d'Abel représente aussi le sacrifice de l'agneau qui devrait être immolé pour les péchés du monde. Christ qui serait crucifié sur la croix de Golgotha et qui serait ressuscité. Et c'est par la foi que nous disons qu'Abel aussi ressuscitera, car ce sacrifice qu'il a offert à Dieu, il a aussi offert son corps, car il est un symbole du sacrifice de l'agneau. La deuxième fondation que nous allons considérer, ou le second pilier, ou le second symbole, c'est le symbole d'Enoch. Enoch, symbole de la foi. Enoch, colonne de la foi. Nous allons lire en Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Deux faits résumèrent la vie d'Enoch. Il marcha avec Dieu, et il ne fut plus car Dieu le prit. On peut comprendre que c'était un triste monde que celui au milieu duquel vivait Enoch. La grande famille humaine de son temps marchait dans le chemin de Caïn, qui aurait tué son frère et qui, chassé par ce fait de devant la face de Dieu, avait organisé le monde tel que nous le voyons encore aujourd'hui. Au moment de la chute du premier homme, quand Ève eut prêté l'oreille aux paroles du serpent, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, y élurent aussitôt domicile. C'est ainsi que le monde fut formé quant à ses principes. Exclu de la présence de Dieu, Caïn l'organisa en bâtissant la première ville et réunit ainsi les hommes en société avec les bienfaits des richesses, de l'industrie, des arts et des plaisirs. Cette ville eut sans doute sa religion, car Caïn était un homme religieux à sa façon. Or, quelle différence, je le demande, y a-t-il entre ce monde et le monde actuel? Sinon qu'aujourd'hui, le monde est pleinement manifesté comme ennemi de Dieu à la suite du meurtre et du rejet, non pas d'Abel, mais du Fils de Dieu lui-même. Enoch est le symbole de la foi. Enoch est le symbole du salut. Enoch est le symbole de la vie éternelle, la victoire sur la mort et sur le péché. Au temps d'Enoch, bien des centaines d'années après le meurtre d'Abel, le mal s'était considérablement développé sur la terre. Les hommes étaient devenus impies, bravant ouvertement Dieu, et leurs paroles et leurs œuvres portaient cette empreinte. Quelques siècles encore et la terre entièrement corrompue et pleine de violence sera mûre pour le jugement. L'histoire de l'homme a donc eu ses phases jusqu'au déluge. Elle en parcourt de nouvelles du déluge au jugement final par le feu. La famille de Caïn, détruite autrefois, revit dans ses caractères moraux depuis la croix de Christ. Selon l'épître de Jude, elle a trois étapes successives. Le chemin de Caïn, l'erreur de Balaam, enfin la contradiction de Corée ou l'opposition ouverte d'une chrétienté apostate à la personne de Christ. Invoquer le nom de l'Éternel suppose la foi. Comment est-il écrit « Invoqueront-ils celui qu'ils n'ont point cru » Romains 10, verset 14. Invoquer le nom de l'Éternel, c'est d'abord trouver le salut par la foi avec les bénédictions infinies que ce thème comporte. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Mais quand je possède le salut, j'invoque le nom du Seigneur pour l'adorer. C'est ce que signifie cette parole. Alors, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Il y eut désormais sur la terre des adorateurs du vrai Dieu. Dès lors, dans l'Ancien Testament, tous les hommes de foi ont invoqué le nom de l'Éternel. Maintenant, nous allons considérer une troisième colonne, un troisième pilier dans l'édifice de la foi. C'est la foi d'Abraham. Nous lisons dans Hébreux 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Nous lisons en Genèse 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Hébreux 11, 8 explique ce qui était si extraordinaire dans son départ, C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham partit, il eut confiance en l'Éternel, étant convaincu qu'il le guiderait lui et sa famille vers une destination inconnue. Il ne posa pas de questions, sa foi ne faiblit pas, il démontra sa foi en partant, c'était un grand acte de foi. Cette foi d'Abraham en partie, quand il partit pour une terre étrangère, c'est aussi notre espérance, c'est notre foi, quand aussi nous partirons pour la terre promise, le ciel et la vie éternelle que Dieu nous réserve. Par la foi d'Abraham, nous pouvons aussi avoir confiance que Dieu nous emmènera aussi dans la terre promise. Nous allons voir maintenant la cinquième colonne, ou le cinquième symbole, c'est la foi de Sarah. Sarah, c'est le symbole de la victoire de la femme sur le péché, sur la mort, sur les souffrances du monde et sur toutes les difficultés, sur toutes les difficultés de ce monde. Nous lisons pour vous Hébreux 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Les trois hommes qui visitaient Abraham, l'un d'entre eux demanda à Abraham, « Où est Sarah, ta femme? » Abraham répondit, « Elle est dans la tente. » L'autre dit, « Je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc, Sarah rit en elle-même et se disant, « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard. » Mais Yahweh dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Se disant, « Vraiment, vais-je encore enfanter, alors que je suis devenue vieille ?» Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahweh? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Yahweh visita Sarah comme il avait dit et il fit pour elle comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham déjà vieux, autant que Dieu lui avait dit. Le fils qui lui est naquis et un fils lui est naquis, Sarah a enfanté. Abraham lui donna le nom d'Isaac. Sarah est le symbole de la victoire de la femme. Comme Ève a été séduite et a entraîné toute l'humanité, toute sa famille dans la chute, aussi Marie, une femme, aura un fils et ce fils nous donnera la victoire. Sarah, c'est la victoire de Dieu sur le péché, sur le mal. Sixième colonne que nous allons considérer, ou sixième symbole, ou encore le sixième pilier, c'est encore la foi d'Abraham. Nous lisons dans Hébreux 11, verset 17, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » Ce chapitre constitue le sommet de la vie de la foi d'Abraham. L'homme de foi formé par Dieu, va maintenant devoir montrer la réalité du travail opéré en lui. Dieu lui demande de sacrifier son fils, mais il veut aussi l'associer comme adorateur au mystère de l'œuvre de la croix. Il veut nous faire entrer ainsi un peu plus dans ce que sera pour lui le sacrifice de son fils bien-aimé. L'épreuve à laquelle Abraham est soumis atteint profondément ses affections naturelles. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et s'agit de celui de qui il avait été dit en Isaac, en Isaac te sera appelée une semence. Sans lui, les promesses de Dieu ne pouvaient s'accomplir. Abraham a eu une attitude remarquable alors que le support même de sa foi semble lui être enlevé. Il regarde à celui qui a parlé. Si Dieu redemande après avoir donné, c'est afin de faire connaître le fondement sur lequel aura lieu l'accomplissement de ce qu'il a dit, c'est-à-dire la victoire sur la mort. Abraham, en offrant son fils, estime que Dieu pouvait le ressusciter d'entre les morts. Une fois encore, nous voyons que dans ce verset, Isaac est le symbole du sacrifice. Isaac est le symbole du sacrifice comme la Pâque. Isaac est le symbole de la croix, comme Jésus-Christ aura à mourir pour toute l'humanité. Abraham croit à la résurrection de son fils. Et de même, Jésus-Christ est ressuscité après qu'il ait été crucifié sur cette croix. Abraham, c'est encore l'un des piliers, l'une des colonnes de notre foi. La septième colonne que nous allons considérer, ou le septième pilier, ou le septième symbole, c'est le symbole d'Isaac. Isaac est le symbole de la promesse de Dieu à l'humanité. Nous lisons dans Hébreux 11, au verset 20, « C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. » Nous voyons en Genèse, après la promesse de Dieu, que le paisible Isaac est donc le fils de la promesse. Sa naissance était un miracle. La nouvelle naissance l'est aussi pour chaque croyant, comme lui. Le chrétien n'est pas le fils de la servante, mais de la femme libre. Le chrétien n'est pas sous l'esclavage de la loi. Abraham veille en obéissance à la parole, à le circoncire dès son âge le plus tendre, âgé de 8 jours, comme lui-même l'a été en Genèse 10, versets 11 et 12. Isaac hérite à ce titre des mêmes bénédictions de son père. L'appel céleste et la position d'étranger sont aussi sa part. Ses regards doivent rester fixés par la foi sur ce qui est céleste et éternel. En lui seront bénies toutes les familles de la terre. Son nom apparaît dans au moins 21 livres de la parole, liés en général au nom de 2 autres patriarches. Le Seigneur Jésus, se référant au livre de Moïse, rappelle ses paroles. « Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Abraham, c'est le symbole de la promesse de Dieu à l'humanité. C'est le symbole de la vie éternelle. La 9e colonne que nous allons considérer, ou le 9e pilier, ou le 9e symbole, c'est la foi de Joseph. Joseph, encore, c'est le symbole de l'héritage, le symbole de la terre promise. Ou plus ou moins, excusez-moi, nous sommes toujours encore dans la 8e colonne, en Jacob, le symbole de l'héritage divin. Nous lisons en Hébreux 11, verset 21, « C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Comme Sarah, Rebecca était stérile. Les femmes de Jacob sont en cela des figures d'Israël, de l'homme selon la chair, sous l'ancienne alliance. Rachel, plus tard la femme de Ménoa et Anne, plus tard encore Élisabeth, fut visitée de la même manière. Leur stérilité manque d'impuissance signifiait que la chair n'a ni le droit ni le pouvoir de faire entrer dans la famille de la foi. Seule la grâce et la puissance divine nous y donnent accès, car Dieu se réserve d'être le seul ouvrier de notre bénédiction. Dans cette épreuve, Sarah et Abraham avaient manqué d'intelligence et de foi par l'artifice d'une transaction humaine. Sarah chercha à se procurer ce que Dieu ne lui avait pas encore accordé. Mais ce qu'il avait solennellement promis à Abraham en lui disant, « Celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier, Isaac, eut plus de foi que Sarah. Il s'attendait à Dieu et dépendant de lui, il pria instamment au sujet de sa femme car elle était stérile. Plus tard, Jacob imita son grand-père, Abraham. Quand Rachel lui donna sa servante Bilda, au lieu de prier comme Isaac, sa colère s'enflamma contre Rachel. Jacob, en bénissant les fils de Joseph, montre qu'il avait confiance en Dieu, dans la promesse de Dieu, qu'il emmènera les enfants d'Israël vers la terre promise. Et c'était en vue de cette bénédiction, c'était en vue de cette promesse que Jacob a béni les deux fils de Joseph en préparation pour la sortie de la terre promise qui serait lieu après de 400 ans après la mort de Joseph. Chers amis, nous allons faire une pause musicale. Nous vous revenons encore dans notre sujet. Nous espérons que vous resterez branchés et nous vous revenons bientôt. Amis et auditeurs, nous sommes de retour après la pause musicale. La neuvième colonne que nous allons considérer, c'est la colonne de Joseph, ou le neuvième pilier, ou le neuvième symbole. C'est la colonne de Joseph. Nous lisons en Hébreux 11, verset 22, « C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. » La neuvième colonne, c'est la foi de Joseph. Dieu a utilisé la jalousie des frères de Joseph pour accomplir son projet pour la vie de Joseph en les laissant le vendre en Égypte. Dieu fait que le mal que les autres projettent contre nous concourt à notre bien et à l'accomplissement de ses projets. Alléluia. Si Dieu nous protège contre le mal que les autres essaient de nous faire, rien que cela serait une grande chose. Mais Dieu fait... Chers amis et auditeurs, nous sommes de retour après la pause musicale. La neuvième colonne que nous allons considérer, c'est la colonne de Joseph, ou le neuvième pilier, ou le neuvième symbole. C'est la colonne de Joseph. Nous lisons en Hébreux 11, verset 22, « C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. » La neuvième colonne, c'est la foi de Joseph. Dieu a utilisé la jalousie des frères de Joseph pour accomplir son projet. Pour la vie de Joseph, en les laissant le vendre en Égypte. Dieu fait que le mal que les autres projettent contre nous concourt à notre bien et à l'accomplissement de ses projets. Alléluia. si Dieu nous protège contre le mal que les autres essaient de nous faire, rien que cela serait une grande chose. Mais Dieu fait mieux encore. Il fait en sorte que chaque mal que les autres nous font, il accomplit son projet pour notre vie. N'est-ce pas bien mieux quand Dieu retourne ainsi les tables contre Satan? Pensez-y. Si les frères de Joseph n'auraient pas été jaloux de lui, mais bons envers lui, Joseph n'aurait peut-être jamais été en Égypte. Comment y est-il allé? Ses frères sont jaloux de lui. Deuxièmement, ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Troisièmement, les marchands l'ont revendu en Égypte. Ainsi, le projet de Dieu d'amener Joseph en Égypte se réalise. Alors, certaines choses mauvaises que les autres vont faire pour nous faire du mal, Dieu va se servir de ces choses pour accomplir son projet dans notre vie. Si vous aimez Dieu, il se peut que vous passiez par quelques épreuves. Joseph aussi a passé de mauvais moments étant esclave, mais le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie. Gloire à Dieu. Un homme de foi dira, le Dieu de Joseph est aussi mon Dieu. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, on peut me jalouser, on peut me projeter du mal contre moi, mais personne n'empêchera le projet de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Que nous puissions avoir cette foi en notre Dieu qui fait des merveilles. Joseph a béni ses enfants dans la promesse que Dieu les ramènera en Israël vers la terre promise. Joseph, c'est le symbole du paradis perdu, le symbole de la terre promise. La dixième colonne que nous allons considérer, c'est la colonne de Moïse. Moïse qui est le symbole du salut. Nous lisons dans Hébreux 11, verset 23, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. » Dans la famille du tout jeune Moïse, un choix était inévitable. Un garçon était né, suite à l'ordre du pharaon, il devait être mis à mort. Mais avec foi, ses parents se décident à le cacher. Ils refusent de céder aux intentions meurtrières du monarque. Mais leur foi est rapidement mise à rude épreuve. Au bout de 3 mois, il devient impossible de cacher le nouveau-né plus longtemps. Alors Amram et Jochebed, ses parents, prennent la décision douloureuse de déposer leur enfant sur les eaux du Nil, au milieu des roseaux. Avec soin, ils le placèrent là, dans un petit coffret confectionné avec amour. On peut se demander pourquoi tant de malheurs atteignent les croyants fidèles, alors qu'apparemment les méchants prospèrent et dépassent les imaginations de leur cœur. Mais Dieu ne se trompe jamais dans sa façon d'agir. C'est toujours avec amour qu'il s'occupe des siens. Il va sauver Moïse de la mort et en faire un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour tout homme, pour toute bonne œuvre. Le chemin suivi dans ce but peut paraître vraiment étrange aux parents, mais ils se confient avec foi aux soins de Dieu. Puissions-nous avoir les mêmes certitudes au sujet de nos enfants? L'Éternel fait travailler toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans un sens, le meilleur moment de la vie d'un chrétien est celui où il n'a plus aucun secours humain. La grâce lui est donnée pour rejeter par la foi son fardeau sur le Seigneur et le lui abandonner. Alors, il n'a plus de préoccupation au sujet du moyen que Dieu va employer pour sa délivrance, ni du moment où cela aura lieu. Le Seigneur lui-même est son garant. Moïse est le symbole du salut, le symbole du salut des chrétiens. Dans la nuit profonde, dans la détresse, dans les épreuves, dans les souffrances de ce monde, Moïse est le symbole du salut des chrétiens. La onzième colonne que nous allons considérer, ou encore le onzième pilier, ou bien le onzième symbole, se trouve encore dans Moïse, dans le livre d'Hébreux, verset Hébreux 11 au verset 27. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Dans cette onzième colonne, ou disons onzième symbole, Moïse nous montre sa confiance en Dieu, la foi qu'il a eue dans le Dieu invisible, le Dieu qui dirigeait son existence. Il n'a pas hésité à laisser le palais, à tout abandonner, les joies, toutes les richesses du palais d'Égypte pour marcher vers le chemin que le Dieu du ciel avait tracé devant lui. C'est le symbole de la confiance en Dieu, le symbole de la foi véritable. La douzième colonne, ce sera encore une colonne de Moïse, le symbole de la foi. Nous lisons dans Hébreux 11, verset 28. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. La Pâque et l'aspersion du sang qui sauva les Israélites quand ils quittaient l'Égypte, c'est le symbole de la Pâque juive. C'est le symbole de la Pâque chrétienne quand Christ a été immolé et quand il nous a sauvés de la mort éternelle. Son sang qui a été versé nous a donné la vie éternelle, nous a pardonné nos péchés et nous a fait devenir fils de Dieu. Et nous avons lu que ce sang est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang n'est pas comme celui dont nous avons hérité dans la chair, mais ce sang, c'est la toute-puissance de Dieu. Comme Israël a été échappé de la mort, comme Israël a été sauvé de la mort lorsqu'il quittait l'Égypte, ainsi nous sommes sauvés de la mort éternelle quand le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous sur cette croix. 13e colonne que nous allons considérer, c'est encore Moïse, une autre colonne dans Hébreux 11, verset 29. 13e colonne, nous lisons Hébreux 11, verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. La traversée de la mer Rouge, pour Israël, c'était la délivrance. C'était la délivrance de ce peuple après plus de 400 ans d'esclavage. La traversée de la mer Rouge est le symbole de la traversée du chrétien de l'esclavage du péché. La traversée de la mer Rouge, c'est comme quand nous laissons le monde et que nous avançons vers Dieu, marchant dans sa plénitude, et écoutant sa voix. La traversée de la mer Rouge, c'est la victoire du chrétien sur le monde, sur le péché et sur le diable. C'est encore la toute-puissance de Dieu qui peut sauver quiconque invoque son nom. Et il peut nous délivrer de toutes les difficultés, de tous les assauts de l'ennemi. La quatorzième colonne que nous allons considérer, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël après la traversée de la mer Rouge. Nous allons lire pour vous dans Hébreux 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tout pendant 7 jours. Nous allons lire encore une autre fois le verset 30 dans Hébreux 11. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Le peuple d'Israël a pris pied dans le pays à conquérir. Il y est rentré par un miracle en traversant le Jourdain à pied sec, tout comme il était sorti d'Égypte par un miracle en traversant la mer des joncs. Le décalage de 40 ans entre les deux événements était dû à l'incrédulité du peuple. Quelle est l'instruction qui en décode pour nous, chrétiens, aujourd'hui? Car tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Dieu n'a pas changé. Ses principes sont restés les mêmes. Le buisson ardent, le chef de l'armée de l'Éternel, le Saint-Esprit en moi, le Seigneur est présent. Il veut prendre en charge. Ôte tes souliers, mets-toi sur le terrain de l'entière dépendance de Dieu. Marche dans la victoire que le Seigneur a déjà préparée et prends possession du pays qu'il y a déjà conquis. Jéricho représente la forteresse de Satan dans le pays à posséder dans la vie du chrétien. Comment vaincre cet obstacle? Hébreux 11, verset 30 nous le dit, c'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent. Fais tomber la forteresse. Josué s'attendait vraiment à ce que les murs tombent. Poussez des clameurs, car l'Éternel nous a donné la ville. À le regarder, il paraissait toujours aussi imprenable que jamais. Quel est l'obstacle qui empêche la vie du Christ de s'épanouir en vous? Vous attendez-vous à le voir tomber? Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. Ils ne tombèrent pas le premier jour. Le chiffre 7 semble jouer un rôle important. 7 sacrificateurs, 7 trompettes, 7 jours, 7 heures, 7 tours. C'est le chiffre de la perfection divine. Dieu est une trinité et il est le créateur. Or, la terre est caractérisée par les 4 points cardinaux et la création est représentée par les 4 êtres vivants dans l'Apocalypse. Le chiffre 7 représente donc le Dieu trinitaire, créateur, le symbolisme du chiffre 7, 4 fois répété, indique clairement que la victoire est donnée par Dieu. Mais si certains expliquent la chute des murailles par un tremblement de terre ou par les vibrations créées par les cris du peuple, il y a manifestement une intervention directe de Dieu dans ce miracle. Chers amis, c'est ici que se termine notre sujet pour aujourd'hui. Nous allons prier avec vous et nous espérons que la prochaine fois, nous vous retrouverons dans notre émission La Voix de celui qui crie dans le désert, chaque dimanche à 3h de l'après-midi. Merci.
Seigneur, au nom de ton Fils, nous t'en prions aujourd'hui. Lui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Lui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour toi, notre Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné l'intelligence, la sagesse. Merci Seigneur de nous avoir donné ton esprit afin de pouvoir comprendre les choses éternelles, afin de pouvoir comprendre ta parole. Ouvre nos cœurs, ô Dieu. Donne-nous, Seigneur, la paix dont nous avons besoin dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de turbulences. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir pour nous sur la croix afin de nous racheter. Autrefois, nous étions ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la lumière. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la vérité. Car tu as dit la vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom de ton Fils, nous t'en prions, c'est lui qui vient et qui est au siècle des siècles. Amen. À la semaine prochaine pour notre émission. Chaque mardi, 7h pour 8h. On vous attend. Je vous adore. Merci, chers auditeurs.